autour de la question. D'où ça vient ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
C'est pour qui ?
À quoi ça sert ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver, chers amis auditrices et auditeurs, pour remonter le temps et nous interroger sur une période charnière de l'histoire et de l'évolution de notre humanité, le néolithique. C'est là, en effet, que nous avons changé de monde et posé les bases de nos sociétés contemporaines, passant de prédateurs à producteurs avec la sédentarisation, la domestication et l'élevage qui ont marqué les débuts de l'agriculture. Une vraie révolution à mettre au pluriel, car les archéologues ne cesse de mettre au jour sur tous les continents des foyers d'innovation parallèles, que ce soit en Chine, en Amazonie ou encore en Éthiopie. À l'initiative de l'INRAP, l'Institut d'archéologie préventive, une journée de rencontres sur tous ces mondes du néolithique a été organisée il y a tout juste un an au musée du Quai Branly Jacques Chirac à Paris. Nous en avions fait écho le 30 novembre 2021, date de la première diffusion de cet entretien croisé entre l'éminent et passionnant archéologue Jean Guilaine, professeur émérite au Collège de France, spécialiste internationalement reconnu de la préhistoire récente, et l'archéozoologue Stéphane Frère, qui nous avait entre autres fait découvrir un néolithique sans élevage aux confins de l'Asie, mais aussi les tout premiers jardiniers de la forêt en Amazonie ou encore de mystérieux mégalithes en Éthiopie. Autour de la question « Quelles autres révolutions néolithiques ont eu lieu sur la planète ?» Bienvenue pour le redécouvrir ensemble.
On parle toujours du néolithique comme la première grande révolution de l'histoire de l'humanité. Et j'aimerais savoir si cette révolution dont on parle souvent dans le croissant fertile, eh bien, est-ce qu'elle est apparue partout en même temps ou est-ce que, selon les zones géographiques de notre planète, il y a eu plusieurs néolithiques ?
Question ouverte par Éric Pincas, rédacteur en chef du magazine Historia, à laquelle vont répondre nos invités. À commencer par vous, Jean-Guilaine, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous. C'est un plaisir et un honneur de recevoir l'éminente archéologue que vous êtes, professeur émérite au Collège de France, spécialiste de la préhistoire récente et de proto-histoire. C'est vous qui introduirez demain cette journée de débats et de rencontres et de projections aussi au musée du Quai Branly à Paris sur les mondes néolithiques, en commençant par revenir sur ce terme même de révolution néolithique à laquelle je crois que les chercheurs, et vous notamment Jean-Guilaine, préférez aujourd'hui le terme de transition, c'est ça ?
Oui, le terme révolution implique un changement abrupt. Alors, le néolithique est considéré comme une révolution historique, dans la mesure où, précisément, il a un peu changé la face du monde, avec l'agriculture, l'élevage, donc, c'est une grande mutation économique, sociale, on peut dire aussi génétique, linguistique, probablement. Mais ça, c'est une vision un peu d'historien, a posteriori, n'est-ce pas, avec, qui considère les choses avec un certain recul. Mais en réalité, si l'on se place du point de vue de l'archéologue qui, lui, étudie cette mutation, on s'aperçoit que ces changements ont été très longs. Ça a été une politique de petits pas, souvent.
Et de petits pas sur une chronologie, sur combien... Est-ce qu'il est possible, surtout en plus quand on parle des mondes néolithiques, de faire une chronologie.
Alors, on prend le cas du Proche-Orient, souvent, parce que c'est l'exemple peut-être le mieux connu, l'un des mieux connus.
L'émergence.
Et surtout le plus ancien. Eh bien, vous avez d'abord un phénomène de sédentarisation, en gros, entre 12 000 et 10 000 avant notre ère. Puis vous avez une phase transitionnelle, là, au cours de laquelle vous avez les débuts, les premiers tâtonnements agricoles, en quelque sorte. Bon, entre 10 000 et 8 500, puis entre 8 500 et 7 000. Alors là, vous avez l'agriculture, l'élevage et les villages, c'est-à-dire la vie paysanne, en quelque sorte. Et curieusement, d'ailleurs, la céramique en est absente. La céramique n'apparaît qu'après, alors que dans d'autres régions du monde, elle est bien antérieure et est une production de chasseurs-cueilleurs. Donc, vous voyez au Proche-Orient, en gros, 4 à 5 millénaires, disons. Donc, vous voyez, c'est très long.
C'est très long.
C'est donc une mutation.
C'est une vraie mutation, une vraie transition.
Une transition.
Ailleurs aussi dans le monde, alors du coup, sur une échelle de temps encore plus longue. Bonjour Stéphane Frère.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous. Alors, vous êtes archéozoologue. C'est presque par hasard, enfin un hasard de circonstance qui fait que vous êtes un des rares, un des premiers à avoir travaillé en Chine, notamment avec des archéologues chinois, sur des sites néolithiques mettant au jour d'autres mondes néolithiques, mais sans élevage, c'est ça ?
Oui, tout à fait, mais c'est dans une petite zone de la Chine, parce que quand on regarde l'étendue du territoire, la diversité des paysages, bien évidemment, cela ne va pas se dérouler selon la même chronologie et de la même façon selon les lieux. Alors les Chinois ont beaucoup travaillé sur ce qu'ils nomment la plaine centrale, qui correspond peu ou prou à l'archéologie des vallées des grands fleuves, fleuve jaune, fleuve bleu. Là, les investigations sont nombreuses, elles démontrent un néolithique de forme ancienne, probablement exagéré pour les premiers résultats publiés il y a une vingtaine d'années, mais
parce
qui tendent à être corrigés.
Parce que les archéologues et les archéologues chinois veulent être les premiers. Enfin, c'est quand même ça qui est derrière.
Bien sûr, comme beaucoup de pays.
Comme tout le monde.
Et comme la Chine fait partie des pays qui investissent le plus dans l'archéologie, les budgets de l'archéologie chinoise font rêver la plupart des Européens, bien évidemment, il faut avoir occasionnellement des découvertes exceptionnelles. Mais sur le secteur sur lequel j'ai travaillé, sur le nord-est de la Chine, qu'on appelle la Chine des confins, là nous sommes dans une autre perspective où ce développement ne se passe pas selon la même chronologie et selon des choix un peu différents, surtout en ce qui concerne les choix de subsistance où l'arrivée de l'élevage va être relativement tardif, tout comme celui de l'agriculture.
Et si on devait caractériser donc cette immense période, transition, charnière du néolithique qui a fait le monde dans lequel nous sommes et les humains que nous sommes devenus, ce serait quoi ? Disons dans un ordre différent, mais en tout cas sédentarisation,
agriculture.
Jean-Guilaine.
C'est la base de tout, l'agriculture. Et puis c'est vraiment le changement économique essentiel dans cette histoire.
De passer de chasseur-cueilleur à agriculteur, pasteur, éleveur.
En même temps, c'est la domestication du vivant, qu'il s'agisse des animaux, qu'il s'agisse des plantes. Donc l'homme intervient sur la nature. Jusque-là, il avait été un peu prisonnier, en quelque sorte, de la nature. La nature était dominante, l'homme dominait. C'est le basculement du néolithique où l'homme devient dominant et la nature dominée, vous voyez.
Et est-ce qu'on sait, évidemment, l'agriculture, on pense que c'est pour se nourrir, mais est-ce que c'était seulement pour se nourrir ou est-ce que c'était aussi, l'agriculture, ça peut être des céréales, enfin des fibres, du coton, peut-être du lin pour se vêtir aussi.
Oui, mais aussi pour les vêtements, évidemment, ça jouait. Remarquez qu'au début, pendant longtemps, probablement, enfin, au début, le lin a dû être cultivé également pour ses fibres, pour faire des vêtements. La laine n'est arrivée qu'après, n'est-ce pas ? Mais pendant longtemps, on a continué d'utiliser des peaux, des cuirs, c'est-à-dire des éléments animaux, essentiellement, pour constituer les vêtements. Ozi, par exemple, l'homme des glaces, vers 3200 avant notre ère, eh bien, sa panoplie vestimentaire, c'est essentiellement des peaux, des cuirs, en définitive.
Et puis
quand même une cape de tressée de végétaux.
Donc c'est vraiment une transition qui a pris du temps sur des millénaires autour de la question de toutes ces, on va plus dire révolutions néolithiques, mais de tous ces mondes néolithiques, de toutes ces transitions néolithiques. Je propose d'écouter Muriel Gandelin, préhistorienne, archéologue à l'INRAP, qui est en charge de cette saison néolithique à l'INRAP.
Ce terme révolution néolithique a été très important pour les archéologues puisque il a marqué le chamboulement immense qui se produit avec le néolithique. Donc c'est un terme qui a été très utile à la discipline et que je renie absolument pas. Les points qui posent un peu question sur ce terme, c'est qu'on a une impression de rapidité avec le terme de révolution. Et ensuite, d'un point de vue étymologique, la révolution induit quelque chose qui serait cyclique. Et je pense que ces deux éléments ne sont pas réellement réunis, puisque le néolithique est un mouvement extrêmement lent qui s'étale sur plusieurs siècles. Et le côté révolution, cyclique n'est pas vraiment.
C'est une rupture en fait. C'est une rupture sur le long terme, voilà. Mais c'est une rupture, c'est ça. Hein.
C'est un changement radical du mode de subsistance de l'humanité, de sa façon d'occuper la Terre.
Vous êtes évidemment d'accord avec Muriel Gandelin, Jean-Guilaine. Alors, néolithique, étymologiquement, c'est le nouvel âge de pierre. Pourquoi l'âge de... Enfin, oui, parce qu'au néolithique, il y a eu aussi beaucoup de mégalithes.
Oui, mais là, alors, on entre dans un autre domaine. Mm-hmm. D'abord, néolithique, c'est la pierre nouvelle par rapport à la pierre ancienne, c'est-à-dire au paléolithique. C'est comme cela que les deux termes ont été définis dans la seconde moitié du XIXe siècle. Le mégalithisme, c'est un autre problème. Le mégalithisme, ce sont des tombes, c'est pas, je parle essentiellement des dolmens et pas des pierres levées qui constituent un autre problème. Mais ces tombes mégalithiques, néolithique, ces grandes tombes en pierre, en réalité, elles existent chez certaines populations néolithiques et pas chez d'autres. Autrement dit, ça n'est pas un stade par lequel tous les néolithiques sont passés. Le mégalithisme, par exemple, est très foisonnant sur toute la façade atlantique de l'Europe, en Méditerranée occidentale également, mais en Europe centrale, il n'y a pas de mégalithes. Voyez, donc il y a des populations avec mégalithes, d'autres sans mégalithes. Et vous avez aussi beaucoup de civilisations qui sont passées par un stade mégalithique, mais tout à fait en dehors du néolithique, au cours de périodes récentes, de périodes historiques notamment.
C'est ce qu'on verra d'ailleurs autour de l'Éthiopie, par exemple, avec ces mystérieuses mégalithes. Un film sera projeté demain à la fin, mais là on est vraiment dans des périodes beaucoup plus récentes.
Évidemment.
Or, le néolithique est partagé, enfin cette transition, cette rupture, agriculture, sédentarisation, élevage, ça c'est vraiment partagé sur toute la planète, Stéphane Frère ?
Non, quand on regarde l'exemple du nord-est de la Chine, ou même des zones un peu plus septentrionales, l'Asie du sud-est, continentale et même insulaire, on se rend compte que d'une part, dans le processus de néolithisation, c'est-à-dire de sédentarisation, d'utilisation de la pierre polie, de la céramique, tous ces critères sont présents, mais l'animal arrive fort tard dans certaines régions, ça va être le cas de l'ancienne Mandchourie, ça va être le cas par exemple aussi en Asie du Sud-Est, où déjà ce néolithique arrive bien tard par rapport à la Chine, probablement aux alentours de 2000-2200 avant l'ère commune, donc quelque chose assez récent, qui va se chevaucher très rapidement avec l'arrivée des métaux et de l'âge du bronze. On voit des populations qui ont des animaux avec des formes bien spécifiques qui marquent le caractère domestique. Par exemple, les profils crâniens chez les suidés, chez le sanglier, va être modifié lors de la domestication. Donc ça se voit très bien, il y a aucun doute là-dessus, on a des animaux domestiques. Mais à côté de ça, une activité de chasse qui va perdurer à côté de cet élevage. Cette activité
c'est
de chasse.
Parallèlement, finalement, il y a des animaux qui commencent à accompagner les hommes et qui sont domestiqués et des animaux sauvages.
Tout à fait. Et on retrouve dans ces animaux chassés les mêmes espèces que l'on pouvait avoir à la période antérieure en Asie du Sud-Est avec des populations typiquement de chasseurs-cueilleurs. On continue la prédation sur les grands cervidés, sur les grands bovidés, alors même qu'il y a les premiers bovidés de forme domestique qui apparaissent de taille moindre en même temps. Et tout cela va cohabiter assez tardivement si on regarde la partie insulaire de l'Asie du Sud-Est, notamment à Sumatra. On a encore des exemples sur un gros site qui, là, est du Moyen-Âge, parce qu'on est entre la fin du XIe et le tout début du XIVe siècle.
Oui, c'est un néolithique qui s'étend énormément.
Tout à fait. Donc là, on n'est plus, à l'évidence, dans le néolithique. Ce sont des comptoirs probablement commerciaux tamouls qui vont du Moyen-Orient jusqu'au sud de la Chine. Mmh. Ce sont des sites d'importance que l'on pourrait comparer, entre guillemets, à des villes, mais au sein desquels la subsistance va provenir majoritairement d'espèces sauvages. Alors nous sommes dans des zones de mangroves proches du littoral. Il y a foisonnement d'espèces, une abondance de gros animaux qui vont pouvoir être capturés assez facilement. Et de fait, 70% de la viande provient de ces animaux sauvages.
Ce qui veut dire au fond que ce néolithique, c'est vraiment les hommes ont commencé à transformer leur environnement, mais c'est pas par hasard, c'est parce que ils l'ont moins fait dans des régions ou dans des zones où la nourriture était abondante et où il n'y avait pas besoin, entre guillemets, Jean Guilaine.
Oui, mais en fait, les plus anciennes expériences, qui sont essentiellement au Proche-Orient, dans la Chine des plaines et au Mexique, autour de trois céréales principales qui nourrissent l'humanité, c'est-à-dire le blé d'un côté, le riz et le maïs. Bon, ce sont les pôles les plus anciens. Mais la question que pose Stéphane Frère, c'est le problème au fond de la diffusion sur les périphéries, et notamment sur les périphéries les plus extrêmes, en quelque sorte, qui font que là, il y a une adaptation plus tardive et en fonction des biotopes.
En fonction de l'environnement, voilà, s'il y avait sur place nécessité, enfin, suffisamment de gibier, suffisamment de nourriture,
et
pas
donc,
besoin.
Si vous voulez, les problématiques ne sont pas les mêmes. Mmh. C'est-à-dire, vous avez dans les grands épicentres, disons, vous avez une mutation qui est ancienne, mais le modèle, en quelque sorte, n'est pas répercuté tel quel dans ces zones périphériques qui sont des zones d'adaptation en fonction de la géographie, de l'écologie et des environnements.
autour de cette question du néolithique, des mondes néolithiques et des diverses formes qu'a pu prendre ces transitions, ces ruptures, ces moments charnières du néolithique. Alors vous avez eu envie, cher Jean Guilaine, de nous emmener, de retourner à vos racines, à vos propres racines, en occitan bien sûr. Et nous, on a choisi de métisser un peu ces extraordinaires chants occitans en vous proposant d'écouter Manu Théron, soutenu par les percussions de Youssef Bech sur RFI. Nouvelle, Welcome Ensar, excusez mon occitan, vous êtes bien sur RFI et c'est un chant occitan signé Manu Théron avec Youssouf Bech aux percussions. C'est pour vous Jean Guilaine, est-ce que ça vous plaît?
C'est un peu orientaliste comme expression.
C'est ça, exactement. C'est un peu métissé autour de cette question du néolithique, vu d'ailleurs des mondes du néolithique. Regard croisé donc de chercheurs, d'archéologues, de préhistoriens et préhistoriennes, spécialistes du néolithique comme vous, Jean Guilaine, mais aussi de zoo-archéologues comme vous, Stéphane Frère, qui nous fait découvrir donc des confins de la Chine jusqu'en Asie du Sud-Est. Il y a eu au cours du temps d'autres foyers d'innovation, de sédentarisation, mais pas toujours de domestication, pas toujours d'élevage. En tout cas, ce qui caractérise ces autres mondes du néolithique, c'est quand même des foyers d'innovation, Jean Guilaine. À chaque fois, c'est quand même, on change de monde, différemment et petit à petit.
C'est compliqué.
Oui, oui.
C'est compliqué parce que le problème est de savoir si, à partir des trois principaux épicentres que nous avons évoqués,
donc, il y a Moyen-Orient, Chine, Mexique.
Voilà. Mais vous avez aussi l'Afrique, mais qui est très tardive. Vous avez des très tardives au point de vue de la production agricole. Vous avez la domestication du mil, la domestication du riz africain, du sorgho. Mais tout cela est très tardif. Et alors que déjà, il y a de l'élevage, notamment de l'élevage bovin, très probablement originaire du Proche-Orient, qui s'est répandu en Afrique, voyez. Donc, le problème est de savoir si ces épicentres ont répercuté leur modèle, n'est-ce pas, de proche en proche, aux périphéries, ou si les périphéries, effectivement, ont d'elles-mêmes inventer leur propre néolithique.
Finalement, c'est ça la question qui se pose aujourd'hui. Est-ce qu'il y a eu plusieurs inventions conjointes du néolithique ou est-ce que c'est un mouvement qui s'est disséminé? C'est un peu ça la grande question.
À partir des divers pôles, vous avez eu des disséminations. Par exemple, il est très vraisemblable que le maïs domestiqué au Mexique a gagné, autour de 5000 avant notre ère, l'Amérique du Sud. Voyez. Bon. Mais le modèle n'est pas le modèle diffusionniste en quelque sorte, ne peut pas répondre aux réalités, à la complexité des situations, parce que dans les régions où il y avait potentiellement des cultivars, des plantes domesticables, à ce moment-là, ces plantes ont été domestiquées. Est-ce qu'elles ont été domestiquées sous l'effet d'un influx venu de l'extérieur ou par créativité locale? Et c'est tout le fond du débat.
Ah ouais, et ce sont d'énormes questions sur notre humanité, finalement. Est-ce qu'il y a en même temps les mêmes choses qui se déroulent sur la planète pas? Enfin, c'est vraiment des énormes questions.
Du diffusionnisme, il y en a, dans la mesure où il y a toujours des contacts, l'homme est un agité, il circule en permanence. Mais en même temps, vous avez les créativités locales aussi qui s'expriment.
Et donc des formes différentes.
Avec des formes différentes. Autrement dit, vous ne retrouvez plus la déclinaison qu'il y a dans les épicentres.
Et ce qui veut dire aussi qu'aujourd'hui, on change de regard, puisqu'on était parti du Proche-Orient, c'est la manière du néolithique Proche-Orient puis Europe occidentale, et aujourd'hui, on change de regard sur différents néolithiques dans le monde.
Au fond, je dis que le néolithique, les diverses façons de s'exprimer du néolithique, c'est une éloge de la différence.
C'est ça, hein, vraiment. Un de nos auditeurs au Bénin, à Abomey-Calavi, nous demande finalement qu'est-ce que le néolithique a apporté. Enfin, c'est assez énorme comme avancée. Alors, il dit technologie, culturelle, et quelles ont été ses répercussions sur la biologie? Alors, la biologie du genre humain, mais la biologie des animaux aussi.
Je pense que Stéphane peut répondre plus facilement.
Sur la biologie des animaux, il y a des changements qui sont variables selon les espèces. Par exemple, la domestication du cheval n'a pas entraîné de modifications morphologiques conséquentes rapides, alors que la modification des autres principales espèces domestiques que l'on connaît en Europe, donc les bovins, les porcs, les moutons et les chèvres, vont rapidement se modifier.
C'est biologiquement ou génétiquement, hein, les
deux. Oui, c'est visible à l'œil nu. On pensait, avec les prémices des études et les débuts de la métrique, que ça se passait sur du moyen terme, qu'il fallait plusieurs générations pour que ça soit perceptible. Mmh. Et de fait, les expérimentations récentes, notamment menées sur le sanglier, montrent que l'on peut avoir une modification du profil crânien très, très rapide. Et donc, ces animaux qui vont être nourris, vont consommer d'autres aliments, vont adapter leur morphologie très très rapidement en quelques générations à leurs besoins du moment.
Et nous aussi, j'imagine qu'on a dû de même adapter notre biologie à des céréales cultivées, à d'autres manières de se nourrir, au fait de se vêtir.
Tout à fait. Les manifestations sur le long terme, les mieux connues actuellement, ça va être la disparition de la troisième molaire, les dents de sagesse par exemple, qui n'ont plus de rôle fonctionnel avec la modification de la mandibule humaine. Mais il va y avoir tout un tas d'autres critères. Et puis on va développer aussi avec le néolithique, avec l'élevage et la production de produits laitiers, la capacité à les digérer. Capacité
à digérer qu'on n'était pas capable de digérer.
Tout à fait. Et qui n'est toujours pas le propre de l'ensemble de l'humanité.
Et là encore, éloge de la diversité de notre humanité. Autour de la question des différents mondes du néolithique, direction l'Amazonie maintenant, avec l'archéologue Stéphane Rostin, formidable empêcheur de penser en rond l'histoire et la préhistoire précolombienne et l'histoire de l'Amazonie, auteur entre autres de l'Amazonie ou l'archéologie au féminin. Sa communication demain, dans cette rencontre INRAP au musée au Quai Branly, s'intitule « La sédentaire, la potière et la fermière, le néolithique sans fin de l'Amazonie ». Stéphane Rostin nous explique les particularités de ce néolithique sur le continent sud-américain et en Amazonie.
L'élevage, le continent américain entier n'a pas basé comme le Moyen-Orient ou l'Europe sa subsistance sur un développement pastoral fort. Il y a eu très peu d'animaux finalement domestiqués dans les Amériques. Hein. On en compte 4 ou 5, pas plus. Le lama, le canard, le chien, enfin très peu.
C'est un autre développement, une autre forme de développement.
On a gardé la chasse finalement pour se procurer de la protéine de mammifères. On avait de la protéine aussi beaucoup grâce aux insectes, donc c'était pas un problème d'en trouver. Ouais. Et puis beaucoup de poissons, beaucoup d'oiseaux. En revanche, ils ont élevé des animaux. Ils ont fait des parcs pour les tortues, des piscines pièges pour les poissons. Et puis, alors, ils utilisent les habitudes naturelles des animaux pour les capturer. Par exemple, certaines anguilles fouisseuses qui vont dans la boue pour, durant la saison sèche, rester dans un peu d'humidité, et ben, on favorise des trous à anguilles, et du coup, on a une espèce de garde-manger en plein air où on va se servir. Pour les plantes, ils ont domestiqué en revanche beaucoup de plantes depuis 8000 ans au moins. Je m'étais amusé à faire avec un ami tous les grands foyers de domestication de plantes à travers le monde, il y en a à peu près une quinzaine. Et étrangement, il y en a plus de 10 qui sont sur la ceinture tropicale. Et puis, ce n'est pas une ou deux plantes qu'on a domestiquées. En Amazonie, c'est plus de 80 plantes. Mmh. Et puis, il y a beaucoup de plantes semi-domestiquées où aussi on va favoriser leur pousse naturelle. Ce sont des jardiniers de la forêt. C'est exactement ça. Donc, quant à la naissance de la céramique, alors il y a plein d'hypothèses. Il y en a une qui est justement en domestiquant les plantes, elles deviennent plus grosses, mais souvent plus dures aussi. On ne peut plus les consommer crues. Il faut les cuire. Et donc, si on met un panier en vannerie à cuire, ça brûle évidemment. Et donc, de là, ça induit la naissance d'un récipient qui passe sur le feu. Je pense qu'en une trentaine d'années, c'est peut-être la plus grande réussite des archéologues qui ont travaillé en Amazonie, c'est d'avoir démontré, prouvé qu'il n'y avait pas seulement des poteries, mais les Amérindiens avaient une autre approche de leur univers.
Jean-Guilaine, vous voulez réagir à ces propos de Stéphane Rostin, d'où l'intérêt hein, d'étudier ces autres mondes avec d'autres manières de traverser le néolithique.
Je pense qu'on a peut-être trop focalisé sur les épicentres. Et maintenant, on est en train de voir que les périphéries bougent et ont bougé à leur façon, à leur manière. Et l'exemple pris par Stéphane Rostin est tout à fait emblématique quoi, de ce nouveau type de recherche, en définitive.
C'est ça.
Et
oui.
D'ailleurs, il a bien montré également dans ses travaux que la forêt amazonienne n'est pas une forêt primaire, en réalité, qu'elle avait été beaucoup cultivée et qu'elle est revenue à un stade ultérieurement, à un stade plus important. Quoi. Elle a fait le chemin inverse, en quelque
sorte. C'est ça, il a démontré, Stéphane Rostin, justement, qu'il y a eu des cultures la part des Amérindiens. Et en Amazonie, il parle de ces jardiniers de la forêt. Il insiste aussi, évidemment, sur la céramique. Alors, la céramique, c'était aussi un marqueur du néolithique.
Et non.
Il faut pas simplifier, on ne peut plus simplifier.
Vous avez une néolithisation qui est accomplie sur plusieurs millénaires sans la poterie. Et puis, vous avez ensuite des zones où la poterie apparaît très anciennement. Par exemple, dans certaines régions de Sibérie orientale, en Chine, au Japon, vous avez des céramiques à partir de, en gros, 15 000, peut-être même plus, qui sont finalement des productions de chasseurs. C'est le même cas en Afrique. En Afrique, où la céramique apparaît vers 10 000, 9 000, mais dans des contextes de chasseurs. Et là, d'ailleurs, il y a eu souvent des erreurs commises par les archéologues. Céramique, automatiquement néolithique. C'est-à-dire, on avait une vision occidentaliste, d'une certaine façon. Mais en réalité, non. C'était des chasseurs qui avaient des pointes de flèches qui ressemblent aux pointes de flèches néolithiques, qui écrasaient des céréales ou des plantes diverses sur des meules, etc., et qui avaient la céramique. Mais pour moi, ça n'est pas des néolithiques. Ce sont des...
Et tout ça sans jugement de valeur, on est bien d'accord. Il n'y a pas question de jugement de valeur. Mais néolithique veut dire, finalement, sédentarisation, agriculture, domestication, véritablement, finalement, des plantes et des animaux.
Voilà. La céramique apparaît dans plusieurs points du monde. C'est le cas aussi à Taperina, dans la zone amazonienne, autour de 5000 avant notre ère. Elle apparaît dans un contexte chasseur. Et pas forcément dans les lieux où les gens ont mis en route le néolithique, comme au Proche-Orient, où elle n'apparaît que vers 7000, alors que la domestication des plantes et des animaux est consommée depuis un millénaire et demi.
Chacun son rythme, chacun a son rythme. Autour de la question des mondes du néolithique, on s'arrête encore quelques instants sur la terre sud-américaine avec un hommage à la Pachamama, signée de la chanteuse Luzmila Carpio sur RFI.
Pachamama, mama, mama.
Mama, la Terre Mère, Luzmila Carpio sur RFI. Autour de la question des mondes du néolithique, on a tendance à voir tout de même cette période charnière, surtout aujourd'hui, comme le début de l'anthropocène, de la mainmise de l'homme, de l'humain sur son environnement, de la maîtrise de la nature jusqu'aux crises multiples que l'on connaît aujourd'hui. Tout a-t-il, aurait-il commencé au néolithique, notre anthropocène, pour le meilleur comme pour le pire, puisqu'aujourd'hui l'homme modifie la planète entière. Voilà qui a été beaucoup discuté au cours de toute cette saison scientifique de l'INRAP sur le néolithique et qui sera beaucoup discuté demain au musée du Quai Branly dans cette journée, les mondes du néolithique, notamment avec l'archéologue de l'INRAP, Muriel Gandelin. Écoutez son éclairage justement sur cette mise en regard entre néolithique et anthropocène.
Le néolithique, c'est la condition sine qua non de l'anthropocène. S'il n'y a pas de néolithique, il n'y a pas d'anthropocène. Tout dépend ce après qu'on met dans la définition d'anthropocène. Le néolithique, c'est le premier impact anthropique fort de l'humain sur la nature. Il transforme toutes les espèces qui nous entourent, les bœufs, les moutons, les porcs, n'existent pas dans la nature. Ce sont des créations humaines. À partir d'animaux sauvages qui sont le roc, le mouflon, etc. Et les sangliers, etc. Donc, il transforme le monde animal et il transforme le monde végétal puisque les céréales dans la nature ne sont pas du tout les mêmes que celles qu'on produit au néolithique. Et ensuite, cette sélection va s'accroître au cours du temps. Donc, on a effectivement un phénomène qui va devenir de plus en plus fort, de plus en plus visible et de plus en plus dommageable pour la planète. Les néolithiques polluent très peu. La première pollution réelle, c'est à peu près au chalcolithique. C'est-à-dire quand ils inventent le cuivre, on voit ça dans les poumons d'Ötzi.
Dans les poumons d'Ötzi, de cet homme des glaces.
Qui a dans ses poumons de l'arsenic, sans doute lié à l'exploitation du cuivre à arsenier. Ensuite, il y a une chose qui différencie le néolithique des périodes récentes, je dirais post-1950, c'est la pollution, on va dire, irréversible qui peut être produite. Les néolithiques produisent peu à partir de l'invention du plastique, l'invention. Donc, on obtient une pollution qui est sans équivalent.
Une accélération aussi.
Le monde paysan néolithique évolue assez peu, finalement, jusqu'au début du XXe siècle. Les outils sont un peu plus techniques, mais globalement, on est dans les mêmes systèmes. Alors que maintenant, avec les systèmes des grandes villes à 1 milliard d'habitants, on tombe dans quand même autre chose.
Jean Guilaine et Stéphane Trin, je vais vous faire réagir là-dessus. Quand on parle aujourd'hui, si l'on s'intéresse peut-être tant que ça, même quand on n'est pas archéologue au néolithique, c'est parce que ça fait écho à ce que l'on vit aujourd'hui, cette charnière, cette transition. Est-ce que pour vous, Jean Guilaine, l'anthropocène, donc cette période où l'homme a un rôle finalement et modifie le système Terre, est-ce que ça a commencé au néolithique ?
Je crois que Muriel Gandelin a très bien résumé la situation. À partir du moment où l'homme intervient sur son environnement, où il commence par exemple à brûler les forêts, et notamment, comme elle l'a dit, au chalcolithique, à partir du moment où il brûle les forêts, où il brûle du bois pour alimenter ses forges, et avec la naissance de la métallurgie, à ce moment-là, on est dans une forme d'anthropocène, c'est-à-dire d'action de l'homme sur le milieu, sur la nature. Maintenant, au néolithique, c'est à bas bruit.
C'est ça, c'est vraiment à bas bruit, très lentement et peu d'action finalement.
C'est pour cela que quand même les géologues ont tendance à considérer que le néolithique doit rester dans l'holocène et que l'anthropocène, en définitive, ne démarre qu'avec les révolutions industrielles du 19e siècle.
C'est ça, beaucoup plus tard, avec d'autres moyens, une accélération. Et pour ce qui est des animaux, puisque vous êtes archéozoologue, Stéphane Frère, est-ce que, quand même, les animaux ont été modifiés, domestiqués, vous l'avez dit, à partir du néolithique? Est-ce que pour vous, l'anthropocène remonte aussi au néolithique?
Oui, tout à fait. Et même si je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit dans les thèmes principaux, j'aurais tendance à voir un début de l'impact humain sur son environnement un peu plus précoce. Parce qu'à partir du moment où l'homme va chasser, qu'il va modifier les équilibres entre les espèces en cas de ponction un peu trop importante sur telle ou telle espèce, il va y avoir des réactions de l'ensemble de l'écosystème. À titre d'exemple, on peut regarder aujourd'hui l'importance du loup pour limiter certaines espèces, notamment les sangliers ou les cervidés, qui dans certaines régions étaient considérés comme trop nombreux et problématiques pour l'environnement. Le simple fait qu'un seul ou deux loups se promènent dans la région, qu'ils y laissent des marqueurs olfactifs, vont limiter la reproduction chez d'autres espèces. À partir du moment où l'homme va intervenir sur une seule espèce, donc ça peut être tout à fait le cas des chasseurs-cueilleurs, ça peut être le cas par exemple sur le loup quand on recherche de la fourrure.
Avant le néolithique, finalement, ouais, même avant la domestication.
J'aurais tendance à voir en fait un impact de l'homme dès que l'homme intervient sur les espèces sauvages, que ce soit les animaux ou les plantes.
Parce que l'homme a une puissance plus importante de par ses outils sur le reste de l'environnement et notamment sur la faune sauvage.
Je ne sais pas, parce qu'il y a un équilibre entre les espèces qui est sans arrêt modifié, qui va fluctuer en fonction des contraintes climatiques. Les oscillations climatiques vont impacter telle ou telle espèce. L'homme est pendant longtemps un des intervenants, au même titre que des faits naturels ou que d'autres espèces. Son impact est mineur. Si je fais remonter ça au paléolithique, c'est dans de toutes petites proportions. Et bien sûr, l'impact humain va être perceptible pour les bioarchéologues, donc ceux qui vont étudier les plantes et les végétaux, de manière bien plus marquée à partir du néolithique, parce qu'il va falloir obtenir des espaces pour les plantations qui vont servir à nourrir l'homme, plantations qui sont liées aussi étroitement à l'élevage, parce qu'il faut fournir du fourrage à ces nouvelles espèces domestiques. Donc il faut acquérir ces nouveaux espaces, il faut brûler le couvert végétal pour pouvoir cultiver. Donc l'homme va marqué de son empreinte la nature, et bien évidemment cela va aller en explosant avec l'accroissement des populations humaines et puis, comme ça vient d'être évoqué, avec l'ère contemporaine et des moyens bien plus conséquents.
Et précisément, pourquoi est-ce que ce monde néolithique fait tellement écho à notre ère aujourd'hui? Comment cette préhistoire récente finalement peut nous éclairer aussi sur nos choix, sur notre présent, notre futur et notre avenir? On continue de s'interroger sur les mondes néolithiques, notre ère de l'Anthropocène, à l'écoute cette fois-ci de votre choix musical. Stéphane Frère, l'archéozoologue que vous êtes, a choisi d'écouter un morceau qui en dit long sur nous, Les Joyeux Bouchers de Boris Vian, qu'on vous propose dans une reprise un peu plus rock'n'roll, signée Les Croquants sur RFI.
C'est le tango des bouchers de la Villette, c'est le tango des tueurs des abattoirs. Venez cueillir la fraise et la mourette et boire du sang avant qu'il soit tout noir. Faut que ça saigne, faut que les gens aient à bouffer, faut que les gros puissent se goinfrer, faut que les petits puissent engraisser. Faut que ça saigne, faut que les mandataires au hall puissent enfourer plein la dalle du filet à 800 balles. Faut que ça saigne, faut que les peaux se fassent tanner, que les pieds se fassent paner, que les têtes aillent mariner. Faut que ça saigne, faut avaler de la barbac pour être bien gras quand on claque et nourrir des vers comac. Faut que ça saigne bien fort. C'est le tango des joyeux militaires, des gays vainqueurs de partout et d'ailleurs. C'est le tango des femmes battant en guerre, c'est le tango de tous les fossoyeurs. Faut que ça saigne, appuie sur la baïonnette, faut que ça rentre ou bien que ça pète, sinon t'auras une grosse tête. Faut que ça saigne, démolise en quelques-uns, tant pis si c'est des cousins, fais-leur sortir le raisin. Faut que ça saigne, si c'est pas toi qui les crèves, les copains prendront la relève et tu joues à la vie brève. Faut que ça saigne, demain ça sera ton tour, demain ça sera ton jour, plus de bonhomme et plus d'amour.
Voilà du boudin, voilà du boudin, voilà du boudin. Faut que ça saigne carrément. Sur RFI, les joyeux bouchers de Boris Vian repris par les croquants. Sur RFI, Stéphane Frère. Pourquoi ce choix musical quand on parle néolithique, quand on parle anthropocène?
Peut-être parce que j'imagine que le néolithique est le début des productions végétales et animales et le début d'une course à la production qui aboutit à cette surproduction et surconsommation actuelle, d'où ce choix musical. Et j'espère que cette orchestration n'aurait pas été rognée par Boris Vian parce qu'elle apporte une fraîcheur et une vitalité nouvelle.
Je vous en remercie Stéphane Frère, mais c'est vrai que au-delà du sourire que ça nous amène, c'est vrai que ça met au fond sur la table toutes les questions que soulève le néolithique et ce qu'on en a fait et la manière dont tous ces mondes néolithiques nous ont fait avancer jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut apprendre du passé, Jean-Guilaine, de cette préhistoire récente, pour le meilleur comme pour le pire, sur notre présent? Parce que finalement, ça fait beaucoup écho. Ils ont dû affronter aussi les premières pandémies, les premières modifications de l'environnement. Enfin,
moi
voilà.
Moi, j'ai tendance à croire qu'en réalité, les mots qui sont les nôtres aujourd'hui ont débuté au moins au néolithique.
Ah, c'est ça.
Au néolithique, il y a eu des crises économiques, il y a eu des crises sociales. On voit par exemple que des stèles qui représentaient des dominants de l'époque ont été abattues. Donc il y a des contestations. Il y a eu des crises de l'environnement, bien entendu. Il y a eu des crises climatiques qui ont joué au néolithique. Il y a les 6200 et 4200 BP events, ils sont des crises climatiques qui ont déstabilisé les populations néolithiques. Au Proche-Orient, on voit par exemple des villages néolithiques prospères qui disparaissent tout d'un coup. La population, si vous voulez, adopte de nouveaux genres de vie et reviennent à un style de vie peut-être plus mobile, vous voyez, et laisse un peu tomber la sédentarisation qui avait commandé leur installation dans des villages jusque-là.
C'est ça, parce qu'ils peuvent affronter des pandémies, destruction de récoltes, enfin ils se retrouvent face à un changement total de monde.
Oui, notamment s'il y a des pics d'aridité. Vous avez une baisse des nappes phréatiques, on a besoin d'eau pour les troupeaux, par exemple, etc. Donc, les crises que nous connaissons, et les pandémies, très probablement, aussi de cette époque-là. Hein. Bon. Il ne faut pas idéaliser le néolithique.
C'est ça, n'idéalisons rien.
Il ne faut pas l'idéaliser parce qu'on s'aperçoit par exemple au Proche-Orient que l'espérance de vie des femmes, notamment, avec le néolithique, a un peu régressé.
Par rapport à avant, par rapport au nomade, au chasseur-cueilleur.
Oui, oui. Vous avez un numéro récent de la revue Paléorient qui développe ce point de vue, notamment. Vous voyez ? Donc, il a fallu payer la facture du néolithique.
C'est ça, un peu comme aujourd'hui. Nous continuons peut-être à la payer. Vous allez en discuter demain donc au musée du Quai Branly pour cette journée ouverte au public. Hein. C'est juste sur inscription, le lien est sur notre page, donc organisée par l'INRAP au musée du Quai Branly à Paris et qui s'achèvera avec un documentaire assez très étonnant d'ailleurs sur les énigmatiques mégalithes éthiopiennes, ces sculptures en forme de phallus qui restent très énigmatiques. Un documentaire clôturera la journée d'échange demain sur les mondes néolithiques. Je propose tout de suite un extrait de la bande-annonce.
Découvert il y a plus d'un siècle, d'imposants phallus de pierre se dressent dans tout le sud de l'Éthiopie. Pourtant, personne n'a réussi à les dater avec précision et leur origine reste aujourd'hui inconnue. L'archéologue Jean-Paul Cros et l'anthropologue Roger Jousseau se sont donné pour mission de dater et de comprendre les stèles phalliques.
Ce site, il est très original par plein de points. Hein. L'abondance de stèles phalliques, la quantité peu importante de décors anthropomorphes, a priori.
Et puis son état de conservation est quand même incroyable.
C'est sans doute celui qui est en meilleur état de tous ceux qu'on a pu voir pour l'instant.
Les premiers résultats des fouilles montrent que ces stèles phalliques sont le plus souvent associées à des lieux d'inhumation, des cimetières ou des sépultures particulières.
On peut imaginer que cette tombe-là était la tombe d'un personnage important par rapport au groupe humain qui vivait sur place, de telle sorte que lorsque d'autres personnes mouraient dans le village, peut-être qu'on dressait une pierre qui commémorait en quelque sorte le mort qui lui était enterré ailleurs.
Les ossements retrouvés lors des fouilles représentent une mine d'informations inestimable pour les scientifiques et permettent de mieux comprendre les rites et les pratiques de peuples aujourd'hui disparus.
Éthiopie, le mystère des mégalithes, un documentaire qui sera demain suivi d'un débat au musée du Quai Branly pour clore cette journée consacrée au monde du néolithique. On est loin, Jean-Guilaine, on arrive à la fin et à la conclusion. On est loin, Jean-Guilaine, d'avoir tout compris à ces mondes du néolithique.
Je crois que notre émission l'a bien montré en réalité. C'est que il y a beaucoup d'inconnus encore à l'intérieur des grands centres classiques, disons, du néolithique, mais il y a encore plus d'inconnus, beaucoup de choses à découvrir sur toutes ces périphéries qui ont montré l'existence d'originalité. Et Stéphane Frère l'a bien montré avec ses terrains notamment. Il y a des originalités que nous sommes en train d'explorer aux quatre coins du monde et qui feront la richesse des archéologues de demain.
Absolument. On ne peut que les inciter, les jeunes archéologues, à se pencher sur cette période à propos d'originalité. Peut-être, pour conclure, Stéphane Frère, quelle originalité avez-vous découvert ou sur quel terrain de fouille vous allez peut-être repartir du côté de la Chine et chercher? Qu'est-ce qui vous a semblé en tout cas peut-être le plus original dans ces autres mondes néolithiques du côté de l'Asie, aux confins de la Chine et jusqu'en Asie du Sud-Est?
C'est surtout la diversité des relations avec le milieu. Quand on est dans des zones dites extrêmes avec des biotopes très riches ou des conditions très particulières, il y a des choix adaptatifs qui sont différents de ceux qu'on peut connaître dans les zones étudiées depuis plus longtemps. Donc ça amène à s'interroger sous de nouveaux angles. Ça sera, je l'espère, fécond pour l'avancée, la compréhension de nos disciplines, puisque c'est à partir de la diversité de ces choix périphériques que l'on va pouvoir, au long terme, imaginer un modèle, si ce n'est global, mais du moins concernant une grande partie de l'humanité, qui va vers ces choix, puisque même sur la plupart des populations considérées encore aujourd'hui comme des chasseurs-cueilleurs, entre guillemets, avec beaucoup de guillemets, nous avons quand même de l'acclimatation de certaines espèces. Certaines espèces considérées comme sauvages, le cas du gibier en Europe par exemple, avec le cerf, va être pendant le Moyen-Âge un gibier qui est géré. Donc nous ne sommes pas sur un animal domestique, mais plus tout à fait sur un animal sauvage. Donc c'est il y a ça. Tous Donc ces intermédiaires
voilà,
qui sont envisageables.
Voilà, tous les stades, toutes ces complexités qui peuvent nous inspirer, que ce soit pour aujourd'hui ou pour demain, quand le passé et les archéologues nous inspirent sur notre présent. Merci à tous les deux de nous avoir éclairés sur les mondes du néolithique avec vous deux. Merci. Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager et à vous abonner à notre podcast disponible sur toutes les applications et sur RFI Pure Radio. À demain, si vous le voulez bien, chers amis auditrices et auditeurs. Autour de la question, le 21e siècle sera-t-il quantique? Avec le physicien Julien Bobroff, formidable passeur de la révolution quantique. Thibaut Baduel à la réalisation, bien sûr. Et Caroline Fillette en coulisses. Nous vous remercions pour votre curiosité. Surtout, gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, vous allez bientôt retrouver les informations.